VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h18, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Libye, 4 tués, 15 blessés. Tel est le bilan d'un attentat suicide ce mercredi dans la ville de Misrata, à 200 km à l'est de Tripoli, la capitale. Ville qui est sous le contrôle des forces loyales au GNA, le gouvernement d'Union nationale reconnu par la communauté internationale. Selon le général Mohamed Al-Ghasri, porte-parole des forces du GNA, un groupe de 3 hommes appartenant au groupe État islamique a essayé d'attaquer le complexe des tribunaux. Un bâtiment du centre-ville de Misrata, le premier assaillant a réussi à entrer dans le bâtiment où il s'est fait exploser, tuant 4 personnes et en blessant 15 autres. Les forces de sécurité ont abattu un second assaillant et arrêté le troisième. Selon l'agence de presse libyenne LANA, l'attentat a coïncidé avec l'arrivée de détenus membres de l'État islamique au complexe des tribunaux, où ils devaient être entendus par le parquet. Au Rwanda, l'opposante rwandaise Diane Rwigara, qui avait tenté de se présenter à la dernière présidentielle, a été inculpée avec sa mère et sa sœur pour incitation à l'insurrection. Les détails avec Solange Nyamulisa.
Les 3 femmes ont été inculpées après avoir subi, selon les dires de Diane Rwigara, des interrogatoires au centre d'investigation de la police pendant les 3 premières semaines de septembre, puis ont été placées en garde à vue. Faustin Kouzi, porte-parole du bureau du procureur, a déclaré que l'accusation a demandé la détention provisoire d'Adeline Rwigara, sa mère, Diane Rwigara, et de sa sœur, Anne Rwigara. Les 3 femmes sont poursuivies pour incitation à l'insurrection. Diane Rwigara est par ailleurs poursuivie pour contrefaçon de documents dans le cadre de sa candidature à l'élection présidentielle du mois d'août. Dans une interview fin septembre, Madame Rwigara avait dénoncé le caractère politique de ses amis judiciaires. La police avait confisqué ses papiers d'identité, ordinateur et téléphone. Le rejet de sa candidature par la commission électorale pour une question de procédure a été critiqué par des gouvernements occidentaux et des associations de défense des droits de l'homme.
En RDC, Mobutu Sese Seko, l'ancien dirigeant de ce qui était à l'époque le Zaïre, est mort au Maroc il y a 20 ans. Aujourd'hui, rien à Kinshasa ne rappelle à première vue l'héritage de celui qui a régné d'une main de fer sur le pays pendant 37 ans. Et pourtant, il y a un groupe de mobutistes qui tentent de ressusciter son parti tout en réclamant sa réhabilitation. Reportage Abdourahmane Dia.
Aucune rue ne porte son nom et il n'y a aucune statue pour l'honorer. Mobutu Sese Seko, mort loin de chez lui, après avoir fui l'arrivée des troupes de Laurent Désiré Kabila, a encore des partisans à Kinshasa. Lando Katambongo est le cousin et ex-secrétaire privé de Mobutu.
Je crois après tout ce que le président a fait dans ce pays, ça mérite quand même une réhabilitation. Les gens, peut-être qu'ils ont l'esprit obtus pour ne pas se souvenir du président Mobutu. Si on ne reconnaît pas ce qu'il avait fait, mais il y a un pan quand même de la société congolaise maintenant, se reconnaissant en lui. C'est quand même le fils de ce pays, ce n'était pas un étranger. Il a lutté pour l'unité de ce pays. On doit quand même le lui reconnaître. L'écriture de l'histoire de ce pays doit rester intacte. Vous voyez à la télé par exemple, quand tu parles de l'histoire de ce pays, on met certaines photos, sauf la photo de Mobutu, comme si lui, ce monsieur-là, ne faisait pas l'histoire de ce pays.
Et parmi ceux qui parlent avec nostalgie de l'époque Mobutu, il y a son fils adoptif, Alain Dilongu Mobutu.
Je ne sais pas si lorsque moi aujourd'hui ou peut-être d'autres se présentent sur la nationalité congolaise, je ne sais pas si ça a la même connotation, si ça a encore la même valeur. Regardez, des pays où nous allions avec fierté aujourd'hui nous rejettent. Des pays que nous contrôlions, dont nous avions une grande ascendance aujourd'hui nous dominent. Je me pose la question.
Et pour lui, réclamer l'héritage de Mobutu passe d'abord par la relance du MPR, l'ancien parti unique.
Nous avons pris nos responsabilités pour réhabiliter ce parti-là et réanimer la flamme du MPR tel que notre papa, tel que le fondateur de ce parti l'avait animé pendant 32 ans.
Et la question du retour au pays de la dépouille de l'ancien chef d'État est aussi dans les esprits. Xavier Lukelo Longo était un de ses plus proches collaborateurs.
Les morts aujourd'hui, même si ton frère a un problème, on nous dit de pardonner. C'est le pardon d'abord. Quand il n'y a pas le pardon, on ne peut pas rien construire. Et les chefs, mon papa, il était pour le pardon. il a beaucoup aimé ce pays et il a fait beaucoup pour ce pays et il ne voyait pas mon Congo, mon Luba, mon Ngala. D'ailleurs, je vous dis, même nous qui les servaient, il y avait des Katangais, il y avait des Kassaïens. 90% des travailleurs, c'était Bandundu, Bakongo.
Abdourahman Dia, de retour de Kinshasa pour VOA Afrique.
La Voix d'Amérique en direct de Washington.
Au Cameroun, le gouvernement qualifie les séparatistes anglophones de terroristes depuis le mois dernier suite à l'explosion de plusieurs bombes artisanales, notamment à Bamenda, le chef-lieu de la province anglophone du Nord-Ouest. Le tout dernier incident de ce genre a eu lieu dans cette même ville dans la nuit de lundi à mardi à proximité des locaux de la police, John Lyndon.
L'explosion n'a pas fait de victimes, elle s'est produite près du groupement mobile d'intervention, une unité de la police. Deux bombes artisanales ont été placées, mais une seule a explosé. L'autre a été désamorcée par la police. L'attentat n'a pas été revendiqué. Le 18 septembre, des bombes artisanales ont déjà explosé à Bamenda, puis le 22 septembre à Douala, la capitale économique. Après ces explosions, Yaoundé avait qualifié les séparatistes anglophones de terroristes. Dimanche dernier, les indépendantistes ont tenté de proclamer l'indépendance des deux régions anglophones sur les disques contre le Cameroun. Un important dispositif policier a été déployé, 14 personnes ont été tuées et 5 prisonniers sont morts en tentant de s'évader de la prison de Koumbo. Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme alors que d'autres réclament la partition. Un scénario que rejette catégoriquement le gouvernement de Yaoundé.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a affirmé mardi à Niamey que la force du G5 Sahel sera une bonne réponse aux questions sécuritaires et aura le soutien de la France. Le point avec Morgane Guillouyec.
Je suis convaincu que la mise en œuvre de cette force, qui sera déployée sur les 3 fuseaux, sera une bonne réponse aux questions sécuritaires dans le Sahel, a souligné Jean-Yves Le Drian hier à Niamey. Il a assuré que la force sera validée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 30 novembre prochain. Les dirigeants des pays du G5 ont décidé le 2 juillet à Bamako de la mise en place d'une force conjointe qui doit commencer son déploiement entre septembre et octobre. À terme, elle doit comprendre 5000 hommes, mais son financement est loin d'être bouclé. Seuls 108 millions d'euros ont été promis sur les 423 millions jugés nécessaires. La Mauritanie, un des États membres, a appelé lundi les bailleurs à mettre la main à la poche et une conférence de planification des contributions est prévue le 16 décembre prochain à Bruxelles.
Crise migratoire. Le procès d'un Érythréen soupçonné d'avoir dirigé un vaste réseau de passeurs est en cours depuis hier devant la cour d'assises de Palerme en Italie, malgré des soupçons d'erreur d'identité. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
L'homme présenté comme Medani Yedego Meredi a été arrêté en mai 2016 à Khartoum et extradé vers l'Italie. Il est soupçonné d'être le général d'un réseau de trafiquants de migrants avec des antennes en Libye, au Soudan, aux Émirats Arabes Unis et dans plusieurs pays européens. Dès l'annonce de son extradition, plusieurs personnes qui ont eu affaire au général ont déclaré ne pas le reconnaître. Des proches ont assuré que la personne arrêtée s'appelle Medani Tessamariam Béré, un réfugié érythréen de 29 ans, installé à Khartoum depuis 2014. Selon les enquêteurs, Medani Yedego Meredi a organisé, à partir de 2013, le voyage souvent mortel de centaines de personnes à travers le Sahara puis la Méditerranée. Son réseau est accusé d'avoir affrété le bateau qui a pris feu et coulé le 3 octobre 2013 au large de Lampedusa, faisant plus de 366 morts.
Actualité aux États-Unis pour terminer, le FBI et la police fédérale américaine sur la piste des mobiles du tueur de Las Vegas, Steven Paddock. Sa petite amie, de retour aux États-Unis, est entendue aujourd'hui par le FBI pour tenter d'éclaircir le mobile du carnage qui a fait 59 morts et plus de 500 blessés, la fusillade la plus meurtrière de l'histoire moderne des États-Unis. Aux Philippines, le pays natal de la petite amie, les autorités enquêtent sur un virement de 100 000 dollars qu'elle y aurait reçu de la part du tueur. Par ailleurs, le président Donald Trump est attendu ce mercredi à Las Vegas pour réconforter les familles des victimes. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.